Mais d'abord, Luc.
Oui, monsieur Brem. Oui, monsieur Drainville.
Vas-y, mon Luc. Take it away. C'est à toi. C'est à toi.
On va parler un peu de COVID, hein.
Ben.
À l'heure actuelle, oui. 2,9% des Canadiens ont reçu au moins une injection d'un vaccin. C'est pas beaucoup, Bernard.
2,9.
Aux États-Unis, ils sont à 14%. Alors. Depuis le mois de décembre, le Canada a reçu 2,5 millions de doses des deux vaccins, dont 1,5 million ont été administrés. Et au total, cette semaine, le Canada reçoit, et c'est quand même la bonne nouvelle, le ministre Dubé en a parlé, 700 000 doses des deux vaccins autorisés au Canada, un record hebdomadaire depuis le début des livraisons. Et le premier ministre Trudeau a par ailleurs indiqué mercredi que Moderna expédierait d'ici la fin mars 460 000 doses de la semaine du 8 mars et 840 000 la semaine du 22 mars.
C'est ça. Ça s'accélère.
Ça s'accélère vraiment beaucoup. Ouais. Et ce qui est une bonne nouvelle, je le répète.
Ben oui.
Et Santé Canada n'a toujours pas de verdict quant à l'approbation du vaccin AstraZeneca, et ce, après près d'un mois, après avoir évoqué une décision au cours des prochains jours.
Ouais.
Dans le cas d'AstraZeneca, Bernard, c'est un peu controversé. C'est un vaccin moins efficace, paraît-il, en pourcentage. Mm. C'est aussi un vaccin, paraît-il, qui n'est pas très bon pour les gens de plus de 65 ans. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont décidé de passer leur tour. Ils ne sont pas sûrs que c'est ça la solution. Par ailleurs, l'autre vaccin qui est le plus proche du fil d'arrivée, le vaccin à une dose, et ça c'est très important, une seule dose, Johnson & Johnson, vient d'être jugé efficace et sécuritaire par la Food and Drug Administration des États-Unis. Santé Canada continue de recevoir des données et poursuit son examen continu depuis le 30 novembre 2020.
Je suis très parfait. Oui, vas-y.
C'est long, mais qu'est-ce qu'ils font?
Ouais.
Je comprends pas.
Ouais, j'allais dire, je suis partagé. Parce que j'ai pas le goût, en même temps, là, j'ai pas le goût. Moi aussi, je trouve ça long, là, d'abord, je vais dire ça. Premièrement, je trouve ça long. Mais deuxièmement, Luc, je ne veux pas qu'il brûle les étapes parce que, justement, il y a de la pression, puis la pression de la population. Parce que s'il fallait qu'on approuve trop rapidement un vaccin puis qu'il y ait des séquelles ou qu'il y a... Alors là, c'est toute l'opération vaccination qui pourrait être compromise. Fait que moi aussi, je suis impatient, puis en même temps, j'ai comme pas le goût de dire aux scientifiques, hey, prenez des raccourcis là, puis grouillez-vous, puis approuvez-moi ça, ce vaccin là. Tu comprends mon dilemme.
Mais je me demande si y a pas comme une sorte de souhait à Ottawa de s'en remettre aux deux vaccins qu'on utilise présentement. Les chiffres, les statistiques enregistrées partout dans le monde, y inclus en Israël, le grand laboratoire où tout le monde, plus de 50% de la population est vaccinée, sont extraordinaires. Les suites sont très bonnes. Tu sais, je me pose la question, est-ce qu'on veut ajouter une autre composante? Parce qu'au rythme où les arrivages se font, je suis pas sûr qu'on en aurait besoin.
Ouais, enfin. Mais en même temps, Luc, va te dire, si la FDA, qui est quand même une des plus grandes autorités là, en matière d'homologation là, de
la
médicaments.
Grande,
bon, s'ils trouvent que Johnson est... Puis je pense pas que les Américains prennent des raccourcis. Là. S'ils ont jugé le médicament de Johnson & Johnson efficace et sécuritaire, j'aimerais ça que Santé Canada l'approuve elle aussi, parce que ça pourrait accélérer l'opération vaccination d'une manière incroyable et faire en sorte, peut-être, qu'on se retrouve quelque part au mois de juin, avant de partir en vacances, puis la majorité d'entre nous serait peut-être vaccinés. Tu t'imagines l'été puis les vacances qu'on aurait, mon gars?
Et qu'on serait heureux, Bernard. Hein? Et qu'on serait heureux. Bon, ben là, on va parler de la Chine un peu, puis des vaccins.
Oui.
Parce que c'est du dépistage dont il s'agit ici. La Chine a démenti jeudi soir avoir infligé un dépistage anal de COVID-19 à des diplomates américains. Il faut savoir que la Chine a commencé en début d'année à généraliser les tests rectaux, jugés plus fiables que les méthodes traditionnelles de prélèvement dans le nez ou la gorge.
OK.
D'après les médias américains Vice et Washington Post, des employés du département d'État en poste en Chine se sont plaints d'avoir subi par erreur un dépistage anal de COVID. Alors, il a fallu que le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères de la Chine démente ces informations. La Chine n'a jamais exigé de diplomates américains qu'ils se soumettent à des prélèvements anneaux.
Ah! Parce que là, tu dis... Mais semble... Non, non, mais tu sais, des employés qui se sont plaints d'avoir
au
subi...
Au moment où l'écouvillon entre, tu viens les yeux ronds. Il paraît que c'est ça qui se passe, Bernard.
Parce que c'est les... Non, mais c'est parce que les mots sont importants. C'est subir un test de dépistage anal par erreur. Là, tu dis...
C'est toute une erreur. Bon, ah, oui. Je sais que t'aimes pas mes chiffres, Bernard, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de le souligner. Plus de 2,5 millions de morts de la COVID ont été officiellement enregistrés dans le monde.
Oui.
C'est beaucoup, beaucoup. Au moins 2 500 000, 1172 décès et 112 618 488 cas déclarés.
Oui.
Bon. Wow!
112, OK. Mais 2,5 millions, à peu près 20 % plus de 500 000 aux États-Unis, là.
Oui, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est le pays le plus durement frappé. Et bon, l'Amérique latine y a goûté aussi pas mal. Hein? Brésil, Mexique, c'est pas été de jojo. Évidemment, le Royaume-Uni, là, mais si on compte ça dans l'Europe.
Non.
Israël!
Oui!
C'est très court ce que j'ai à dire, parce qu'on a manqué tantôt un morceau de la conférence de presse du ministre Dubé. Alors, un concert réservé aux personnes vaccinées a été organisé mercredi par la municipalité de Tel Aviv.
Mm-hmm.
Pour y assister, il fallait présenter un badge vert délivré par le gouvernement après la deuxième injection. Et là, ça m'amène à ce qu'on avait manqué parce qu'on ne l'a pas fait au complet. Christian Dubé a dit ce matin que le Québec était ouvert à l'idée d'un passeport vaccin numérique qui pourrait notamment permettre aux personnes vaccinées d'assister à certains événements. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est une bonne idée en passant.
Tu sais, ben là, c'est surtout, t'as entendu Arruda qui a dit, là, il va falloir gérer les festivals cet été, là.
Oui, bien sûr.
Et puis honnêtement, Luc, si le prix à payer pour avoir des festivals cet été, c'est de créer un passeport vaccin numérique, ben moi, je serais ouvert aussi, là.
Ah ben oui. Ah,
tu
ben,
comprends?
Oui, mais...
Bon.
Pourquoi, tu sais, à mesure qu'on avance, ça donne quoi de garder des gens en confinement qui sont plus en danger? C'est comme, bon, ça devient un peu redondant, quoi.
Ah,
et là, on change de sujet.
Oui.
Et on parle de dépenses, de tout petites dépenses.
Ah, ça, c'est fou, ça.
Des navires évalués initialement à 26 milliards de dollars devraient maintenant coûter plus de 77 milliards, alors que le travail de construction n'est même pas amorcé. On parle des navires...
Les frégates de la marine canadienne.
Les fameuses frégates.
Ouais.
C'est le constat troublant qu'a fait le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.
Tu t'imagines 15 navires qui devaient coûter 26 milliards, donc grosso modo autour de 2 milliards chacun, et là on est rendu à 77, je suis en train de faire la division pendant qu'on se parle, 77 divisé par 15, ça va coûter 5 milliards par bateau. M'a te dire une affaire.
Ils ont besoin d'être bons.
Ils sont mieux de flotter, hein?
Écoute, Yves Giroux dit qu'il y a une explosion des coûts du plus important contrat d'approvisionnement militaire de l'histoire. Il estime que la facture pour les 15 futures frégates de la Marine royale pourra difficilement être inférieure à 77,3 milliards. Et là, écoute bien ça.
Ouais.
On est confiant que notre estimation est très réaliste. On croit que c'est un scénario qui est plausible à la condition qu'il n'y ait pas de changement additionnel dans le design des navires par la Défense nationale.
Mmh.
Et là, ils viennent mettre le doigt dessus. Quand tu pars sur des programmes d'approvisionnement de ce type-là, que ce soit des avions de combat, que ce soit des véhicules blindés, il y a toujours cette manie, un groupe au ministère de la Défense nationale qui est là pour voir à bien remplir les besoins du Canada en matière d'armement. Et là, ils achètent quelque chose, puis là, ils se mettent à étudier ça.
Les temps qu'à faire, hein?
Ouais, tant qu'à y être, on va en mettre un peu plus. Ouais. Puis regarde, regarde, j'ai trouvé quelque chose qu'ils ont fait en Angleterre. Regarde, on va le faire sur nos frégates aussi. Alors, tant qu'à faire, allons-y, puis un patati patata. C'est complètement cinglé. 77 milliards pour un budget de départ de 26. Oui, puis moi, ça dépasse l'entendement.
Oui, puis Luc, on va se parler franchement, là. Si on est rendu à 77, puis ils n'ont même pas commencé à les construire...
On va se rendre à 100.
On se rend à 100, mon chum.
Oui, bien, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de sens.
Puis sais-tu quoi? Là, tu as toujours l'impression qu'on est en train de se faire avoir un peu, parce que tu as deux chantiers maritimes, hein, qui ont eu ces contrats-là.
Celui dans l'ouest.
Celui de Irving, en Nouvelle-Écosse, puis celui de, je me souviens plus comment il s'appelle, ça, c'est en Colombie-Britannique, OK? Mm-hmm. Bon, puis évidemment, on a celui...
On a eu des quelques miettes ici au Québec.
Oui, c'est ça. Puis là, la MIL Davy, depuis quelques années, dit... On aurait dû en avoir, nous autres, notre part. Puis, bon, ils essayent de se faire reconnaître comme chantier maritime là, officiel avec les deux autres.
Mais ils le sont presque.
Oui, presque, mais ils sont pas encore. Puis là, tu te dis, honnêtement, Luc, si on est pour être reconnu officiellement, puis je pense qu'on le mérite, là, parce qu'on a construit, on a fait l'Astérix, là, on a réussi un bel ouvrage à l'intérieur du budget, puis à l'intérieur des
chantiers. Non, moi, je doute pas de notre capacité, bon. Bernard, je doute pas de notre capacité.
Ben là, qui nous en donne une partie, on peut pas faire pire que les deux autres, hein? Ouais,
mais quand ils les ont exclus, c'était sous le gouvernement Harper, oui. Les shipbuilding, oui. Ils étaient presque en faillite. Hein?
Oui.
Faut pas oublier ça.
Non, mais moi,
maintenant, la situation s'est beaucoup améliorée. Et c'est le temps qu'on en laisse venir ici de ces 100 milliards, là. 100 milliards, moi, j'en veux 22. 23. C'est 23 % de la population. Amène-nous 23 milliards de contrats chez Davy Shipbuilding. On va aimer ça.
Oui, mais là, qu'est-ce que tu veux? Les deux autres vont dire, « Ouais, mais là, on a commencé, nous autres, qui avons commencé à travailler dessus. »
Mais ils n'ont même pas commencé à construire.
Ouais, mais ils vont dire, « On a le contrôle des plans, puis tout ça. » Puis là, si vous faites ça, ça va augmenter les coûts encore. Inquiète-toi pas, là. Ils nous laisseront pas ça.
Il va y avoir d'autres approvisionnements qui s'en viennent.
Oui, nous autres, c'est les... C'est
glaciers.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Les brise-glaces.
C'est les brise-glaces qu'on va avoir, puis des traversiers aussi. Ouais.
Bon, ben c'est pas si mal. Ouais. C'est pas si mal.
Bon.
Pour une compagnie qui était presque en faillite, là, on est bien reparti.
Très bien. Continue. Est-ce que c'est tout?
C'est tout, Bernard.
C'est vrai? Bon. Mais de toute façon, tu t'en vas pas parce qu'on va parler de hockey dans une dizaine de minutes avec Martin McGuire. Fait que tu as le temps d'aller faire miam-miam à ton nouveau minou. Puis on se reparle dans un instant.
À tantôt.
C'est bon. OK. Au retour, on vous raconte la belle histoire de Noah. Ce garçon de 8 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, on va parler avec sa mère. Puis je sais pas, je pense que Noah sera pas loin. Hein. Oui, Noah va être quasiment sur l'appel. Fait que bougez pas.